Il y a du droit, Michel Burgon.
Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène discret, mais redoutablement efficace. Un phénomène qui prospère dans l'ombre du droit d'auteur et qui touche des milliers de petites structures, des associations, des commerçants, des collectivités. Un phénomène qui a un nom. Les copyright trolls. Alors, c'est quoi un copyright troll ? Ce n'est pas un artiste, ce n'est pas un photographe qui défend son œuvre, ce n'est pas un musicien qui protège sa création. Non, un copyright troll, c'est une société ou un cabinet ou un groupuscule qui achète des droits, parfois à bas prix, dans un seul but. Traquer les usages non autorisés sur Internet. Et pour ça, ils ont un outil redoutable, la technologie. Robots de surveillance, logiciels de reconnaissance d'image, crawlers qui fouillent les réseaux sociaux, ils repèrent la moindre photo, la moindre musique, la moindre image utilisée sans autorisation. Puis, ils contactent les titulaires des droits qui n'avaient rien vu, rien demandé, rien envisagé, et ils leur proposent un marché. Laissez-nous agir en votre nom. Nous poursuivrons, nous encaisserons et on partagera. Ils provoquent des conflits qui n'auraient jamais existé. Ils créent des litiges, ils en exploitent et ils en tirent profit. Prenons un exemple. Une petite association sportive utilise une photo trouvée sur Google pour illustrer l'affiche d'un tournoi local. Elle ne vend rien, elle ne tire aucun profit. Elle agit de bonne foi. Et pourtant, elle recevra une lettre d'un cabinet étranger lui réclamant 1200 euros. La lettre parle d'un procès, de condamnation, de frais d'huissier. L'association panique. Elle hésite. Elle finit par payer. Et c'est là que le mécanisme devient pervers. Les copyright trolls ne cherchent pas à faire respecter le droit. Ils cherchent à monétiser la peur. Ils savent que vous allez payer, même si vous êtes dans votre bon droit, parce que le coût d'un procès est trop élevé, parce que l'incertitude est trop lourde, parce que l'apparence de régularité suffit à vous faire plier. Alors, que faire ? Il faut voir un avocat, parce que lui seul peut comprendre que la mise en demeure n'est pas une condamnation. Demandez des preuves. Vérifiez la titularité, les éléments techniques, la justification du montant et, si la faute est incontestable, contestez l'indemnisation dans son montant. Un usage non commercial, non intentionnel, à faible visibilité, ne peut pas justifier des sommes délirantes. Et c'est là que le phénomène dépasse le simple abus juridique. On entre dans une logique de formatage social. C'est par ce processus que nous intégrons des normes, des réflexes, des automatismes, sans savoir les interroger. C'est ce qui fait que, face à une lettre, avec une entête juridique, un ton solennel, des références à des articles de loi, on se sent coupable. On se sent fautif, on se sent obligé de payer, même si la demande est abusive, même si le droit n'a pas été violé, même si la menace est vide. Pourquoi ? Parce que nous avons été conditionnés à respecter la forme, parce que nous avons appris à obéir à la régularité apparente, parce que nous avons intégré que le droit, c'est sérieux, c'est sacré, c'est inaccessible. À tel point que nous n'irons pas consulter un avocat. Et les copyright trolls le savent, ils exploitent ce formatage, ils jouent sur notre réflexe de soumission, ils transforment le droit en outil de domination. Alors, rappelons-le, le droit est un outil dont il faut savoir se servir, et nous devons refuser que la peur, la forme, la régularité apparente dicte notre conduite, parce que seul un avocat peut analyser la réalité et ses dangers. Au fond, le vrai pouvoir du copyright troll, ce n'est pas le droit. C'est notre formatage, c'est notre réflexe de soumission, et c'est ce réflexe qu'il faut briser. À la semaine prochaine.